Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. 1 million de personnes dans les rues de Barcelone aujourd'hui pour l'indépendance de la Catalogne. La Diada a fortement mobilisé un an après le référendum avorté. Le reportage de Sébastien Berriot dans un instant. Viktor Orban dénonce un chantage du Parlement européen alors que les eurodéputés examinent une procédure de sanction contre la Hongrie. Le Premier ministre hongrois était à Strasbourg aujourd'hui. Les explications de Quentin Dickinson et le commentaire de notre invité, l'universitaire Paul Gradvol, spécialiste de la Hongrie. En France, Alexandre Benalla ne veut pas se rendre devant la commission d'enquête sénatoriale. L'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron est pourtant tenu de répondre à la convocation des sénateurs, dossier suivi par Anne Fauquemberg. Les indépendantistes catalans sont redescendus dans la rue aujourd'hui à Barcelone pour une nouvelle démonstration de force, un an après leur référendum annulé par Madrid. Ils étaient environ 1 million selon la police municipale barcelonaise, une mobilisation équivalente à l'an dernier. Une foule venue célébrer la Diada, la fête nationale catalane, associée pourtant à un sombre épisode historique. Le 11 septembre 1714, le roi d'Espagne Felipe V s'emparait de Barcelone. 304 ans plus tard, la Catalogne est toujours une région espagnole et la plupart des responsables indépendantistes sont en prison. Quant à leur chef, Carles Puigdemont, il est exilé en Belgique. On retrouve à Barcelone notre envoyé spécial Sébastien Berriot.
On disait les Catalans lassés par ce conflit interminable, mais le million de personnes dans les rues de Barcelone est venu rappeler à Madrid que la population, malgré les difficultés, n'abandonne pas la partie. Ramon, un habitant de Gérone.
Ça, c'est un problème très très important de démocratie. On doit voter, 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 voter et voter. 80% de la population de la Catalogne le veut. C'est si simple, si simple.
L'arrivée du socialiste Pedro Sánchez au pouvoir à Madrid avait un peu rassuré les Catalans, mais il y a aujourd'hui de la déception pour Gérone. Emma, habitante de la ville de Lérida.
C'est un peu différent. Avec Mariano Rajoy, il ne permettait pas parler pas. Et Sánchez, il est disposé à écouter. Mais on ne sait pas, on ne sait pas si il va réellement faire quelque chose ou non.
Dans le cortège également, plusieurs dizaines de Catalans français venus exprimer leur solidarité, pas forcément sur l'indépendance, mais sur les prisonniers. Nicolas Garcia, vice-président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales.
On est là surtout pour la libération des prisonniers politiques, pour le retour des exilés, le retour libre. Après, bon, il y a la République catalane, il y a les indépendantistes, la République catalane, c'est un problème, je dirais, des Catalans. Mais je crois que tous les démocrates doivent être ici. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer vendredi les prisonniers politiques catalans à Lledoners et à Figueres. Ils sont très déterminés, très courageux, ils sont prêts à partir pour quelques années en prison. Ils ne lâcheront rien.
Ils sont 9 dirigeants indépendantistes, toujours incarcérés dans les prisons espagnoles.
Sébastien Berriot de France Bleu Roussillon. Le nouveau gouvernement espagnol dirigé par le socialiste Pedro Sánchez propose en effet aux Catalans un référendum pour renforcer l'autonomie de la région, mais il refuse de parler d'indépendance. C'est l'épouvantail populiste par excellence en Europe, le chef du front anti-migrant. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban était à Strasbourg aujourd'hui pour défendre la cause de son pays devant le Parlement européen, car la Hongrie est sous la menace d'une procédure de sanction qui pourrait déboucher sur la suspension de son droit de vote au sein de l'UE. Selon Bruxelles, le gouvernement hongrois ne respecte pas les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Une mise en cause inacceptable pour Viktor Orban, qui a dénoncé, je cite, un véritable chantage. Quentin Dickinson, vous avez suivi la conférence de presse de Viktor Orban ce soir à Strasbourg.
À l'issue de sa prestation dans l'hémicycle du Parlement européen, le Premier ministre hongrois a voulu enfoncer le clou. Pour lui, le débat avec les eurodéputés était absurde, car la politique de son gouvernement était celle plébiscitée par les Hongrois lors des dernières législatives. Mais se plaint-il, le Parlement européen essaye de passer outre et de forcer les autorités hongroises à se conformer à ses ordres, et de rapporter les propos d'un élu britannique qui lui aurait confié qu'à Bruxelles sévissaient des commissaires européens communistes qui réservaient un traitement soviétique au gouvernement de l'UE, pourtant légitimement élu. M. Orban affirme que son parti, le Fidesz, restera membre de la principale formation conservatrice ici, le Parti populaire européen, le PPE, même si celui-ci a perdu le cap et qu'il se propose de le ramener à ses valeurs chrétiennes d'origine. Il minimise ses rapports avec Matteo Salvini. Ce sont des contacts entre responsables gouvernementaux, dit-il, et non la préfiguration d'une entente préélectorale. Il a également pris ses distances avec Steve Bannon il n'y a pas d'Américains au Parlement européen, ironise-t-il, et nous ne sommes intéressés que par ce qui touche la Hongrie. Après avoir stigmatisé les commentaires défavorables des eurodéputés hongrois d'opposition, la honte de leur pays, selon lui, il confie que la perspective d'un vote négatif à son endroit dans quelques heures ne l'empêcherait certainement pas de dormir.
Quentin Dickinson, merci. C'est en effet demain que le Parlement européen votera pour ou contre le déclenchement d'une procédure de sanction contre la Hongrie en vertu de l'article 7 du traité de l'UE. Invité de ce journal, Paul Gradvol, maître de conférence à l'Université de Lorraine, spécialiste de la Hongrie. Bonsoir. Paul Gradvol, Orban parle de chantage à propos de la procédure de sanction. Le bras de fer continue avec Bruxelles. Ça signifie qu'il n'y a rien à négocier entre les deux parties ?
Tout au contraire, c'est une position essentiellement politique en direction de son opinion publique. L'Union européenne a fait une liste en 12 points des principaux manquements à l'état de droit aujourd'hui en Hongrie. Ça va du système électoral à la corruption généralisée, à la liberté accordée à l'université, à la Central European University de fonctionner à Budapest, etc., etc. Et sur tous ces points, bien évidemment, il y a matière à négociation.
Est-ce que vous sentez Orban susceptible de lâcher quelque chose aux autorités européennes ?
Orban, comment témoigne ce que vient de dire Quentin Dickinson, vient déjà un peu de lâcher Salvini, avec lequel il y a quelques jours il apparaissait comme le meilleur ami du monde. Donc Orban est un pragmatique. Il est capable de tout.
Alors, Viktor Orban, est-ce qu'il bénéficie du soutien de la population hongroise pour affronter l'Union européenne ? Parce que c'est l'un de ses principaux arguments. Il dit qu'il a été élu avec plus de 50% des suffrages et que donc il applique la politique pour laquelle il a été élu.
Alors, c'est justement une des questions qui est posée par l'Union européenne, c'est celle de la façon dont se sont tenues ces dernières élections. Il a eu un peu plus de 50% des suffrages exprimés dans une campagne électorale où son parti a bénéficié de tous les moyens de l'administration publique. Autrement dit, c'est un peu comme les élections à l'époque de Napoléon III en France. À savoir que les gendarmes aidaient les gens à bien voter, ou presque. Là, c'est pas les gendarmes, c'est le fait que vous descendiez dans le métro de Budapest, vous alliez dans n'importe quelle ville de province, et vous aviez d'immenses panneaux d'affichage qui reprenaient le programme de la Fidesz contre les immigrés, contre Bruxelles, mais sous couvert d'actions administratives. Donc ça n'a pas été comptabilisé. Donc on a eu une campagne électorale qui s'est déroulée, certes, avec le résultat qu'on sait, plus de 50%, ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu 95%, puis la propagande et le déséquilibre total qu'il y a eu. Donc, oui, il a une majorité. C'est une majorité qui repose quand même sur un système de liberté partiellement contrainte. Il en a parfaitement conscience. Et d'ailleurs, une des choses qui l'a énervé, on l'a vu au Parlement, c'est l'allusion à la corruption, tout à fait généralisée, et qui est une corruption éminemment politique, notamment en province. Il a essayé de la nier, mais l'Union européenne a des arguments extrêmement probants sur ce dossier.
Paul Gradvol, est-ce qu'il y a une chance pour que cette procédure de sanction que veut enclencher le Parlement européen aboutisse effectivement à une sanction pour Budapest ?
Je ne sais pas si l'objectif, c'est vraiment d'aboutir au final à la suspension du droit de vote de la Hongrie. Je crois plutôt que c'est d'agiter une menace pour amener la Hongrie à respecter les règles qu'elle a elle-même adoptées en entrant dans l'Union européenne. Il s'agit tout simplement, comme le rappelait Frank Timmermans au Parlement européen, de respecter les règles auxquelles on s'est engagé. C'est-à-dire que c'est pas parce que demain Marine Le Pen arrive au pouvoir en France que la France ne pourra ne plus respecter le traité de l'Union européenne. Ou dans ce cas-là, sinon on dit qu'on quitte l'Union européenne.
Et aujourd'hui, ces valeurs fondamentales de l'Union européenne vous semblent véritablement menacées en Hongrie ?
Ah ben, elles le sont, et c'est clair pour tout le monde, y compris pour Orban, d'une certaine façon. Quand le chef du PPE intervient et dit, voilà, j'ai plusieurs problèmes, et parmi eux, il y a le fait que M. Orban déclare Urbi et Orbi que tout musulman est un terroriste en puissance. Ça va contre les valeurs de l'Union européenne, qui sont pour que la liberté religieuse soit pour tout le monde, et en plus, ça fait le jeu des terroristes en scindant les sociétés. Et on peut prendre des exemples sur chacun des 12 points qui sont évoqués. Oui, les valeurs européennes sont réellement menacées.
Dernière question, Paul Gradvol, très rapidement sur la question migratoire qui est au cœur du discours de Viktor Orban. Les Hongrois ont décidé que leur patrie ne serait pas un pays d'immigration, c'est ce qu'a dit Orban cet après-midi à Strasbourg. Comment l'Union européenne peut répondre à cette position du gouvernement hongrois ?
Alors regardez, c'est une position du gouvernement hongrois qui relève d'une espèce de nuage du fumée. Pour que la Hongrie soit un pays d'immigration, il faudrait que des gens veuillent s'y installer. Qui veut s'installer en Hongrie ? Attendez, il y a des centaines de milliers de gens qui ont traversé ce pays à pied pour ne pas y rester. Sont restés quelques dizaines de personnes. Personne ne voulait s'y installer. Donc, on parle de quoi exactement ? C'est l'idée que George Soros aurait ourdi un complot pour envoyer 500 000 musulmans les couteaux entre les dents s'installer en Hongrie est mignonne. Mais ça ne correspond à aucune réalité. Pour l'instant, le problème de la Hongrie, assez concrètement, c'est que c'est gênant à dire pour le gouvernement, mais il y a un déficit sur le marché de l'emploi pour un certain nombre de catégories professionnelles, etc. Et le gouvernement hongrois envisage discrètement de favoriser certaines formes d'immigration. Donc la Hongrie, c'est pas la France, ou c'est pas l'Angleterre, ou c'est pas l'Allemagne. Qui se précipite pour aller vers la Hongrie ?
Merci Paul Gradvol, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Cette confirmation au Brésil, Fernando Haddad, l'ancien maire de Sao Paulo, sera le candidat du Parti des Travailleurs à la présidentielle du mois prochain. Fernando Haddad remplace l'ancien président Lula, incarcéré pour corruption que la justice brésilienne a empêché de se présenter à ce scrutin. Aux États-Unis, plus d'un million d'habitants de la côte Est ont commencé à évacuer leur domicile pour échapper à l'ouragan Florence. Trois États sont concernés, la Virginie, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. L'ouragan Florence qui devrait atteindre jeudi les côtes américaines avec des vents pouvant atteindre 215 km/h. Alexandre Benalla ne doute de rien. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron refuse de répondre à la convocation de la commission d'enquête sénatoriale, peut-être le 19 septembre prochain. Benalla, rappelons-le, est mis en examen pour avoir molesté des manifestants le 1er mai dernier à Paris, alors qu'il n'avait aucune légitimité pour exercer une mission de police. Et c'est justement cette mise en examen qu'il invoque pour poser un lapin au sénateur Anne Fauquemberg.
Alexandre Benalla est en effet au cœur d'une instruction judiciaire mise en examen pour les violences commises sur un manifestant le 1er mai dernier. Alors il sera entendu dans cette affaire par la justice à la fin du mois et c'est précisément à cause de cette procédure qu'il refuse pour l'instant de participer à la commission d'enquête du Sénat. Il ne veut pas risquer des déclarations qui lui seraient reprochées par les magistrats instructeurs, explique son avocat cet après-midi sur LCI, sauf qu'il n'y a aucune incompatibilité selon Jean-Pierre Sueur, l'un des co-rapporteurs de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla.
Il y a des personnes qui ont déjà été auditionnées par des commissions d'enquête parlementaires alors qu'elles étaient mises en examen. Donc ce n'est en aucun cas une excuse. Vous savez que dans les commissions d'enquête parlementaire, le Parlement exerce une mission essentielle pour la République. Souvenez-vous de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire d'Outreau. Ça avait frappé tout le monde. On nous demande, nous, non pas d'être des juges, nous n'allons pas décider de sanctions. Mais nous, nous sommes attachés au bon fonctionnement des institutions. Or, à cet égard, il y a beaucoup à dire.
Une audition nécessaire, donc, pour le sénateur Jean-Pierre Sueur. Il s'agit de faire émerger la vérité sur cette affaire préjudiciable à la démocratie, précise-t-il. Puis Jean-Pierre Sueur sort son smartphone. Il nous montre une ordonnance relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Elle date du mois de septembre 1958 et le règlement éclaire. Toute personne convoquée par une commission d'enquête parlementaire doit se présenter et le Sénat a le pouvoir de saisir la force publique ou la justice.
Anne Fauquemberg, merci. Le MoDem de François Bayrou aura un candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Ce sera Marc Fesneau, le chef du groupe MoDem à l'Assemblée. Le scrutin aura lieu demain et sauf énorme surprise, Richard Ferrand, le candidat de La République En Marche, devrait succéder au perchoir à François de Rugy. On termine ce journal avec la météo demain et cette dégradation sur la plupart des régions. Un temps nuageux et faiblement pluvieux qui s'installe du sud-ouest à la frontière belge. Le ciel deviendra orageux sur la moitié est. Température minimale de 10 à 22 degrés du nord à la Corse. Pour les maximales, comptez de 18 à 32 degrés de la Manche au centre-est. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.